Difficile liberté de conscience. Fais ce qu'on te dit et tais-toi. Qui n'a pas entendu cette formule maintes fois répétée, jadis, au temps passé? Elle résume bien le souvenir qu'on peut avoir, souvenir sans doute durci et exagéré du temps passé. Nous avons vécu dans des sociétés et donc aussi dans une église où il convenait de suivre les règles et d'appliquer les normes. Il n'était sans doute pas très difficile de le faire, car les rôles sociaux et religieux étaient relativement bien fixés et clairs. On allait à la messe comme tout le monde, le dimanche. Cela faisait partie des convenances de la vie sociale. Les responsabilités réciproques des époux au foyer et vis-à-vis des enfants étaient assez bien tracées. Mais tout autant les tâches sur les lieux de travail où les contremaîtres se chargeaient de faire respecter les cadences et les normes, et quant aux armées, ceux qui les fréquentèrent alors savaient que même hors temps de guerre, il ne faisait pas bon évoquer la liberté, car l'adjudant n'aurait pas manqué de rappeler les bienfaits de l'obéissance à l'éventuel récalcitrant. Les usages entre générations allaient de soi, et l'enfant savait qu'il devait obéir aux consignes du maître à l'école comme à celles des parents à la maison. Non que tout était rose dans ce contexte, l'enfant aussi savait tourner la règle, et derrière la façade du conformisme se dissimulaient bien des transgressions. Mais dans les contextes des sociétés et d'églises stables, où peu de choses nouvelles apparaissaient pour bousculer les comportements anciens, les mœurs étaient assez bien réglées, et sauf cas vraiment exceptionnel, on ne voyait pas pourquoi on ne suivrait pas fidèlement ce que tout le monde faisait. La liberté consistait alors à suivre la vie ordinaire et non pas à s'y opposer. Et d'ailleurs, on aurait pu le faire sans exposer aux sanctions sociales insoutenables, mises à l'écart, jugement dépréciatif de l'opinion, stigmatisation diverse. C'est pourquoi dans un tel contexte, la référence à la liberté de conscience ne paraît pas devoir s'imposer et même semble avoir peu de pertinence. Mais les temps ont changé. Nous n'en sommes évidemment plus là. Et il faut prendre conscience de ces évolutions qui nous affectent tous, pas seulement dans les églises, mais aussi dans les diverses couches de la société et à tous les âges, pour comprendre les changements et leur portée. C'est en effet quand les hommes perdent de leur visibilité, quand les règles s'ébrouillent parce que trop nombreuses, vagues ou contestées, quand les rôles sociaux, celui de l'épouse ou de l'époux, de l'employé ou du patron, de l'enseignant et de l'élève, ne paraissent pas clairs ou semblent injustes, inégalitaires ou oppressifs, qu'on fait assez normalement appel à la liberté de conscience. Après tout, pourquoi serais-je obligé de me conformer à des normes dont je pressens le caractère arbitraire ou injuste, et pour tout dire souvent injustifiable? Et si je n'ai pas à m'y conformer, n'est-ce pas parce qu'une obéissance trop inconditionnelle irait contre ma conscience de femme qui n'accepte plus les formes traditionnelles de la dépendance, ma conscience des citoyens ou des travailleurs qui refusent une soumission aveugle aux normes, ma conscience d'être humain, qui veut avant tout réussir sa vie personnelle, et qui s'aperçoit que cet idéal ne passe pas nécessairement par l'obéissance aux convenances traditionnelles, mais aussi ma conscience d'enseignant qui, sachant qu'il y a à éveiller une liberté chez l'enfant, ne veut plus le soumettre à des savoirs ou à des comportements imposés. L'appel à la liberté des consciences. On pressent à quel point dans ce contexte, qui est celui des sociétés modernes, l'appel à la liberté de conscience passe au premier plan. C'est à moi de décider qui j'épouse et s'il convient de me marier, quel métier j'exerce et comment je vais le faire, quelle religion je pratique ou refuse de pratiquer et en elle à quoi j'adhère et ce que je repousse. La liberté passe au premier plan, certes, mais avec le risque que cette liberté soit sans contenu, qu'elle épouse mes caprices, mes sentiments immédiats ou mes lobbies. Le danger est grand alors que chacun soit livré à lui-même, faute de pouvoir s'appuyer sur des normes stables, et donc que la subjectivité la plus individualiste prenne les dessus et impose sa loi. livré à soi-même ou soumis à une nouvelle forme de conformisme, on suivra la foule, on fera comme les copains, cohabitation entre sexes, distance prise à l'égard de la religion, suivisme des modes et des pensées. Est-ce encore de la liberté ou une nouvelle forme de conformisme, plus contraignante et plus subtile que ce conformisme dont je parlais en commençant? Celui-ci ne se donne pas pour tel, mais sous le masque de la liberté la plus grande et du choix le plus individuel. Sous prétexte de cet usage de la liberté qu'il faut bien appeler pervers et ruineux pour la liberté elle-même, réduite aux caprices individuels, faut-il pour autant renoncer à l'idée de liberté de conscience? L'Église, pas plus que les grandes doctrines morales, ne l'ont jamais fait, même si l'on a dit plus haut, ce thème n'a pas toujours été honoré comme il l'eût fallu, et pour les raisons indiquées, car c'est la liberté authentique qui permet d'échapper au conformisme, pour déboucher sur une vie personnelle assumée, en toute responsabilité devant soi-même, devant les autres et devant Dieu. Si l'on ne veut pas être un robot ou un esclave des modes changeants, il faut bien se donner des références personnelles des jugements. Un jugement bien fondé, telle est la liberté des consciences. Non pas un sentiment ou un instinct qui porterait à agir en suivant sa pente aveuglément, mais un jugement qu'on cherche à bien fonder en vue d'assumer ses actes. Ces jugements supposent qu'on se donne des convictions, et en particulier qu'on sache ce qu'en aucun cas on acceptera de faire, le fameux interdit, mentir, voler, trahir sa parole, en fait les préceptes du décalogue. Car une conscience qui n'est pas armée pour dire non devant le mal ou la violence ne sera jamais capable de décider positivement de ce qu'elle veut. Elle sera comme un bouchon sur l'eau ou comme un cymbale retentissante pour parler à la manière de Saint Paul apôtre. Ces jugements supposent aussi qu'on se soumette à l'épreuve de la rencontre avec autrui. Une conscience droite cherche à vérifier sa décision. Elle n'est jamais si sûre d'elle-même qu'elle pourrait se passer de la référence à l'appréciation d'autrui, ami, conjoint, conseiller spirituel. Et enfin, bien évidemment, ces jugements impliquent que je ne me lie pas seulement devant moi-même, mais devant plus grand que moi, devant Dieu. Une liberté chrétienne serait-elle droite si elle ne se mettait pas devant Dieu et ne s'interrogeait pas pour savoir si dans sa décision elle honore son Créateur et Seigneur, si elle est à la hauteur de sa vocation de fils ou de fille de Dieu, si elle respecte en elle l'image du Christ et donc de Dieu? Il faut l'avouer, l'exercice d'une liberté de conscience authentique est difficile dans une société permissive où l'on confond liberté et désir spontané. Pourtant, il faut d'autant plus rechercher une telle liberté qu'elle est la condition d'une part pour échapper au conformisme des plombs qui nous oppresse aujourd'hui et d'autre part pour accéder à une existence vraie devant soi et devant Dieu. Les grands chambardements. Depuis quelque temps, les diocèses de plus en plus nombreux connaissent un changement assez radical quant à la présence et à l'action des prêtres dans la pastorale. Ici, ce sont des mariages sans messe et des obsèques sans messe ni prêtre. Là, ce sont des aumôneries confiées à des laïcs. Ailleurs, des presbytères où l'on trouve un monsieur ou une dame de permanence alors qu'on y cherchait un prêtre. On trouve aussi désormais des religieuses ou des laïcs responsables de la paroisse. Là comme ailleurs, on ne s'étonne plus que la messe dominicale ait lieu tantôt dans l'église de l'une des 10 à 20 ou 40 communes de la grande paroisse, tantôt dans celle d'une autre. Chose admirable, les personnes qui vivent cette évolution de l'intérieur, les chrétiens qui de près ou de loin sont investis dans l'organisation de la paroisse et de ses activités, voient généralement de nouveaux visages de l'Église qui se dessinent avec une grande confiance et une paix profonde. Par contre, quelques chambardements pour ceux qui se présentent et avant tout comme croyants mais pas pratiquants, rarement comme chrétiens, et qui ont des exigences de service après-vente, selon le mot d'un pasteur, d'autant plus grandes. Il faut baptiser l'enfant impérativement à la date et dans l'église choisie par les parents, même si les aînés déjà baptisés ne vont pas au catéchisme. Il faut un prêtre pour la célébration des obsèques d'un membre de la famille, comme si l'enterrement était un sacrement qui sans lui risquerait d'être invalide. Le curé de la paroisse est raciste parce qu'il n'accepte pas un musulman comme parrain. On objectera également qu'un chrétien n'est pas et ne parle pas aussi bien qu'un prêtre. N'ajoute-t-on pas à la difficulté en remplaçant chrétien par laïc? Certains entendent bien enterrement par deux laïcs et ils comprennent enterrement civil. Bien qu'il s'agisse d'un enterrement des funérailles à l'église avec l'accompagnement de l'équipe des chrétiens. C'est le Concile Vatican II qui est à la base de tous ces changements. Ce concile aida à passer d'une église conçue souvent comme une pyramide où seul le pape, les évêques et le prêtre semblaient la constituer, à une église peuple de Dieu, c'est-à-dire composée comme corps du Christ par tous les baptisés, chacun avec sa fonction et sa responsabilité propre. Cette conception de l'église comme peuple de Dieu était sans doute déjà présente jusqu'à là, mais le Père du Concile l'ont dévoilé et mis en lumière avec bonheur. Il s'agit désormais d'en prendre conscience et de la vivre comme telle, ce qui implique une véritable conversion des mentalités et aboutit à des profonds changements dans la vie des chrétiens, changements qui, dans l'histoire d'un corps comme l'Église catholique, ne procèdent pas par des ruptures, mais par glissements, par déplacements. De nombreuses idées reçues, de nombreux stéréotypes, de nombreux regrets demeurent, mais un énorme travail se réalise en profondeur, un travail de longue haleine, nourri de foi, de patience et d'intelligence, de courage et de dévouement. C'est là un immense chantier beaucoup plus tourné vers les semailles et les lentes maturations que vers les moissons, les chiffres et les statistiques. L'Église y gagne sûrement, en vérité et en humilité, car succès, richesse et honneur ont vite fait de la conduire, comme tout homme, à la suffisance, à l'orgueil et à l'abus du pouvoir. Dans les changements parfois douloureusement vécus dans le quotidien de notre vie de foi, essayons de porter notre regard jusqu'à cette mutation profonde qui s'opère au bénéfice d'un christianisme sans cesse appelé à se laisser évangéliser. Quel bonheur de constater la prise de conscience des nombreux chrétiens, l'Église et de leurs responsabilités. Les multiples associations vivent bien grâce à la prise en charge par leurs membres qui assurent l'élection du bureau avec président, secrétaire et trésorier, cotisation, assemblée, etc. N'est-il pas heureux de voir dans beaucoup de paroisses des tâches jusque-là réservées exclusivement aux prêtres, fort bien perçues désormais comme étant celles des membres de la communauté chrétienne? L'expérience montre que les chrétiens les accomplissent avec beaucoup de savoir-faire et de conscience professionnelle, éveil à la foi et préparation au baptême, préparation au mariage et équipe liturgique, aumôneries diverses, scolaires, étudiants, hôpitaux, maisons de retraite, prisons, services évangéliques des malades, accompagnement des familles en deuil, etc. Cela n'enlève rien au prêtre, appelé par l'évêque et envoyé par lui comme témoin de la tendresse de Dieu. Sa mission est de prêcher la parole de Dieu, de donner la vie de Dieu, de célébrer la réconciliation, de présider l'Eucharistie avec des personnes pourtant très diverses sur le plan familial, social, professionnel ou politique, ainsi réaliser l'unité de la communauté. L'essentiel pour nous tous est, à l'exemple de tant de saints de toute époque et de toute condition, nous convertir, c'est-à-dire nous tourner vers le Christ, et repartir du Christ, pour reprendre l'expression du pape Jean-Paul II, nous invitant à cette démarche à l'entrée du troisième millénaire. C'est dans cette perspective que dans la grande mutation que nous connaissons, l'exemple des saints nous invite à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à l'Évangile. Un Évangile lu, prié, partagé et discuté ensemble, un Évangile médité et contemplé, et surtout un Évangile vécu. L'Évangile est un dynamisme, une puissance qui donnera naissance et vie à des visages d'Église que nous ne connaissons pas encore, visages tournés avant tout vers le petit, les pauvres, les malades, les brisés de la vie. Les béatitudes sont toujours à redécouvrir et surtout à vivre. C'est la tâche exaltante qui nous est confiée plus que jamais aujourd'hui par l'Église. Nous pourrons, hélas, assombrir encore les visages de notre Église par nos manquements, notre péché. Même alors, l'Église continuera sa merveilleuse mission, nous livrer l'Évangile de Jésus-Christ, c'est notre espérance. Courage et prudence, cette dynamique est largement engagée. Elle sera parfois tâtonnante et souvent fragile. Elle se heurte à différentes difficultés dont le recrutement des laïcs comme des ministres ordonnés n'est pas l'une des moindres. Mais la ligne d'horizon est clairement fixée. Nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu, écrivait saint Paul, apôtre, dans la première lettre aux Corinthiens 3:9. Ni les laïcs, ni les religieux, ni les ministres ordonnés, prêtres, ne sont à eux seuls l'Église. Ils ne donnent un signe d'Église que dans leur rencontre, leur lien mutuel, se recevant ensemble du Christ et de l'Esprit Saint pour signifier l'amour multiforme des dieux parmi les hommes. Accueillir ses frères. En fait, avec cette évolution, nous percevons combien les chrétiens, prêtres et laïcs, ont fait évoluer leur rapport à la célébration. D'une simple pratique obligatoire, nous accédons peu à peu à la compréhension du contenu de cette pratique. L'essence de nos célébrations prend le pas sur l'obligation pure et simple. Si nous allons à la messe les dimanches, c'est parce que nous comprenons mieux l'essence de l'Eucharistie et que nous désirons vivre de ces ferments de communion que nous propose le Seigneur Jésus. Justement, une communion. L'Eucharistie est de loin la pratique la plus fréquente des chrétiens. Qu'est donc l'Eucharistie sinon l'invitation de Jésus qui nous reçoit à sa table afin de renouveler sa présence en nous? Invités à la table du Seigneur, nous le sommes en compagnie de tous les autres que le même Seigneur invite. Ces convives, nous ne les choisissons pas, nous les recevons. Si nous communions au Seigneur lui-même, nous communions par le fait même à tous ceux qui sont, comme nous, en communion avec lui. Quel signe plus parlant de cette communion universelle que la gentillesse avec laquelle nous accueillons auprès de nous ceux qui concrètement participent à la même messe. D'ailleurs, un rite nouveau nous a été donné, celui de baiser de paix après le Notre Père, pour concrétiser cet accueil mutuel. Certaines paroisses organisent après la messe un verre de l'amitié. Tout ceci constitue le premier niveau de l'accueil. De plus en plus, surtout dans les villes, nous avons vu affluer des immigrés venus de pays étrangers. Dès le début de ces nouveaux faits de société, les responsables diocésains ont demandé que nous sachions les accueillir dans nos communautés célébrantes. Mais très tôt aussi, ces étrangers se sont tellement trouvés étrangers dans nos communautés qu'ils ont désiré se retrouver entre eux pour célébrer comme chez eux. Les premiers furent sans doute les Espagnols, suivis de près par les Portugais. Dès avant la guerre, il y avait eu des Polonais dans le nord de la France, les Italiens surtout dans le sud. Leur pays d'origine nommèrent des prêtres pour les accompagner. Aujourd'hui, nous trouvons des Africains, des Malgaches, des Chinois, etc. Il y a des catholiques parmi ces étrangers. Que faisons-nous pour leur tendre une main accueillante? Savons-nous les inviter de temps en temps à une célébration commune? Osons-nous nous présenter à l'une ou l'autre de leurs propres célébrations? Nous y serons bien reçus. Savons-nous même où ils se réunissent? Il sera difficile aux chrétiens de devenir des véritables témoins de la paix dans le monde s'ils ne savent pas entre eux d'abord surmonter les barrières ethniques, ni les difficultés de langue, ni même les simples difficultés de voisinage. Et les pauvres, il est de véritables étrangers dans nos rues, dans nos banlieues, qui pourtant parlent notre langue et sont nos compatriotes. Je pense ici aux sans domicile fixe, à beaucoup de gitans, à tous les quart-mondes. Nous envoyons l'un ou l'autre à la porte de nos églises, qui nous tendent la main, non pas par amitié, beaucoup n'oseraient pas, mais pour mendier. À leur sujet, je ne sais quoi dire, parce que, prêtres ou laïcs, nous sommes tous maladroits, indifférents ou blindés devant les drames de la vie, qui nous dépassent, certes, mais qui concernent éminemment les chrétiens que nous voulons être. Il est vrai que beaucoup de chrétiens, avec bien d'autres qui ne le sont pas, consacrent une large partie de leur temps et de leurs biens à permettre à ces exclus de nos sociétés de retrouver une place au soleil du bon Dieu. À nous d'aider ceux qui les aident ainsi. Nous en avons mille occasions, jusque dans nos boîtes aux lettres. S'il ne nous est pas possible de répondre à tous ces appels, il serait parfaitement anormal de ne répondre à aucun. Tâche immense. Nous voyons ainsi combien il est dangereux de mettre le petit doigt dans l'engrenage de l'accueil intercommunautaire. C'est bien l'un des aspects de l'Eucharistie, de la simple messe du dimanche, que de venir fouiller nos vies afin de nous aiguillonner vers plus de ressemblances avec Jésus. Ne l'oublions jamais, ce Jésus a choisi ses amis. Si nous pensons en être, sachons bien que nous les sommes sûrement, mais à une condition. Cette condition, la voici, que notre amitié pour Jésus, auquel nous communions à chaque Eucharistie, nous conduise à reconnaître ce même Jésus là où il est vraiment. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais froid et tu m'as invité à me chauffer. J'étais étranger et tu m'as accueilli dans ta maison. Mais quand donc, Seigneur? Et il nous répond, chaque fois que tu as fait cela à un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Et les prêtres? Comment peut s'y attendre? Le ministère spécifique de prêtre est affecté par ce paysage ecclésial plus diversifié et plus communautaire. Il y trouve un nouvel élan et des formes d'action stimulantes. Certes, et le contraire serait bien surprenant, il arrive que des prêtres connaissent une réelle difficulté à s'engager dans un travail avec des laïcs, à découvrir leur place dans la mise en œuvre d'un vrai partenariat, un nouveau partage des responsabilités. Mais pour beaucoup d'autres, cette collaboration avec les laïcs, au lieu d'être frustrante, devient source de joie profonde et de dynamisme. Ils se sentent engagés dans une mission commune avec d'autres chrétiens, les laïcs certes, mais aussi les religieux ou religieuses, les diacres, les évêques. Cette évolution impose que les prêtres exercent leur ministère autrement. La question est à l'ordre du jour en différents lieux de réflexion. Un évêque français disait récemment à ses prêtres, avec des propos proches du prophète Isaïe, chapitre 43, 17 à 20, « Ne reconduisez pas le passé, inventez. Si l'on considère le besoin actuel, trois dimensions paraissent prioritaires. L'éveil à la foi en tous les lieux de la pastorale, les discernements évangéliques dans un monde pluraliste et ouvert à tout vent, la jointure ecclésiale comme signe de reconnaissance et comme ministère des communions entre les communautés locales. En réalité, cette configuration de l'Église ne se caractérise pas seulement par des nouvelles fonctions. Elle engendre conjointement des nouvelles relations et attitudes. Par rapport à un certain passé, la distance, la passivité, l'isolement cèdent le pas à la proximité, à la confiance, au partage, aux confrontations, à la responsabilité commune. Quand les laïcs sont profondément engagés dans leur vocation baptismale, ils ont une meilleure conscience du ministère spécifique des prêtres. Ceux-ci, de leur côté, établissent avec les laïcs un rapport de type nouveau sous le mode de la réciprocité. Bref, au-delà des difficultés et des tâtonnements obligés, on passe globalement d'un cléricalisme volontiers dominateur à une attitude ecclésiale plus participative et communautaire. Il importe en effet de se garder de tout angélisme et d'être vigilant sur les enjeux de cette nouvelle disposition ecclésiale. Ainsi, n'est-il pas impensable que l'engagement des laïcs se polarise ici ou là trop uniquement sur les tâches liturgiques au détriment de leur présence aux réalités collectives de la vie sociale? Dans cette nouvelle situation, la formation doctrinale et pastorale devient importante, et à tous les niveaux des responsabilités. La formation a sensiblement progressé au cours des dernières années. Elle doit devenir permanente, décentralisée, diversifiée. On gagnera à ce que les travaux de formation regroupent de temps à autre laïcs, religieux et ministres ordonnés, prêtres. C'est ensemble et ensemble seulement que nous pouvons découvrir ce phénomène social, ces déplacements culturels, ces centres d'intérêt, ces chemins nouveaux, comme un espace d'évangélisation et une terre d'accueil du royaume des dieux.